C'est personnel et confidentiel. Et c'est maintenant.
Puisqu'il n'y avait rien alentour par rapport à quoi estimer sa vitesse, le voilier semblait immobile, alors qu'en réalité, poussé par des vents solaires, il se propulsait dans le continuum espace-temps, à des vitesses approchant la vitesse de la lumière. À bord de ce vaisseau se trouvait Ulysse. Il ne ressemblait pas vraiment à l'Ulysse de jadis, mais plutôt à un Ulysse qui aurait déjà pas mal vécu. Il portait une tunique lui arrivant à mi-cuisse, qui, bien que taillée dans une étoffe royale et brodée d'or, n'était plus très flatteuse pour sa silhouette vieillissante. Et sous la tunique, on pouvait remarquer une bedaine qui n'avait rien d'héroïque. Ses cuisses, jadis fuselées, étaient devenues molles. Sa démarche manquait de ressort. Il perdait ses cheveux, des cheveux secs, cassants et parsemés de gris. Une barbe hirsute, également poivre et sel, couvrait son visage ridé. Il avait dans les yeux l'expression solitaire du voyageur avançant en âge qui avait beaucoup perdu de ce qu'il aimait sans avoir trouvé grand-chose pour compenser. Il avait toujours des dents, mais celles n'étaient plus toutes là. Certaines manquaient, d'autres étaient fendues ou cassées. Lorsqu'il urinait, comme il le faisait maintenant, il avait mal, et le torrent, jadis aussi puissant que celui d'un taureau, s'était réduit à une série de giclées intermittentes. Et il ne ressentait plus aucun plaisir non plus, contrairement à jadis, à tenir sa queue en main. C'était comme si ce qu'il tenait et la main qui tenait avaient tous deux dépassé leur date de péremption. Son sommeil, quand il dormait, était agité, ses rêves étaient creux et ses cauchemars pleins de regrets. Lorsqu'il se réveillait, il ne se sentait pas ragaillardi et il ne savait pas non plus pourquoi il devait se lever. C'était comme si la même journée monotone attendait chaque jour le même vieil Ulysse. Lorsqu'il arpentait le pont de son bateau comme il le faisait maintenant après avoir uriné, une douleur dans le bas de son dos entravait ses mouvements. Il y avait quelque chose de solitaire dans sa façon de se passer une main dans le dos pour masser cette douleur lancinante, comme s'il n'y avait plus personne pour le lui faire. Et de fait, il n'y avait personne. Ce qui frappait le plus quand on voyait Ulysse arpenter le pont de son voilier solaire, c'était qu'il était seul. Passager, capitaine et équipage tout à la fois. Le guerrier, le voyageur, le coureur de jupons jadis célèbre, le héros des Achéens, Ulysse, roi d'Ithaque, aurait pu tout aussi bien être une sorte de roi lyre du cosmos, mais sans même un bouffon pour lui tenir compagnie, ou la bénédiction de la folie pour emporter son esprit loin des méfaits qu'il avait pu commettre, des méfaits qui ne pourraient jamais être réparés. Pourquoi donc suis-je né ? Hurla-t-il. Sans personne à bord de son navire à qui adresser sa question, il la lança dans l'espace qu'il traversait avec ce mélange de pathos et de rage qui accompagne parfois les lamentations des vieillards et sape leur grandeur. Gros plan sur Ulysse, dont les traits du visage composent un masque d'angoisse et de regret. Il se souvenait de tout. Sa femme, Pénélope, son fils, Télémaque, son foyer, Ithaque. Il avait l'impression que hier encore, il était un homme heureux qui pouvait espérer une vieillesse paisible au sein de sa famille bien-aimée. Il se souvenait de son retour chez lui après plus de 10 ans d'errance, déguisé en imposteur, en mendiant vagabond. Il revoit son fils qui était maintenant un jeune homme bien bâti. Il avait manqué toutes ses années de jeunesse. Comme il était grand et beau. Et ses épaules, quelles épaules il avait, son Télémaque bien-aimé. Le courage de son fils quand ils avaient combattu ensemble les prétendants était tout ce qu'un père aurait pu souhaiter chez un fils. La fidélité de son adorable épouse, Pénélope, qui avait rejeté tous ses prétendants pendant tant d'années, était tout ce qu'un mari aurait pu souhaiter chez une femme. Il se souvenait de leurs retrouvailles, tous les trois, les étreintes, les baisers, les larmes de joie parce qu'ils étaient à nouveau réunis. Mais dans les jours qui avaient suivi, Ulysse avait eu l'impression que quelque chose n'allait pas. De nouveau chez lui à Ithaque, il s'aperçut que sans être vraiment malheureux, il n'était pas aussi heureux qu'il avait pensé l'être en se retrouvant chez lui avec sa femme et son fils. Quelque chose dans l'attitude de Pénélope et de Télémaque jetait une ombre sur la joie d'Ulysse, chef de famille. Ce n'était pas une question d'amour, il les aimait tous les deux de tout son cœur et se sentait aimé par eux. Le problème était qu'il les avait aimés et s'était langui d'eux pendant si longtemps que cet amour in absentia était devenu un mode de vie et pour lui une façon d'aimer. Durant toutes ces années d'absence, il avait pensé à eux, il avait rêvé et imaginé des scènes dans lesquelles ils se trouvaient réunis. Le niveau d'intimité qu'il atteignait en imagination avec sa femme et son fils était étonnant pour quelqu'un qui était retenu loin de chez lui depuis tant de temps. Mais comme cela arrive souvent avec les chefs de famille, Ulysse avait l'impression que plus longtemps il restait éloigné de chez lui, plus il se sentait proche de sa famille bien-aimée. C'était cette proximité même qui constituait maintenant le cœur du problème. La proximité, le niveau d'intimité qu'il vivait avec sa femme et son fils n'était pas à la hauteur de ce qu'il avait imaginé avant son retour. Il lui arrivait de se sentir superflu en leur compagnie. Il savait qu'il l'aimait tous les deux, mais il ne pouvait que remarquer qu'il s'aimait davantage. L'intimité entre deux était spéciale. Ulysse désirait en vérité ce qu'ils avaient. Il savait bien sûr que le lien d'amour entre une mère et son fils était particulier, accepté par les hommes comme par les dieux. Il savait qu'il ne devait pas espérer atteindre le même type d'intimité facile avec l'un ou l'autre en quelques semaines. Il avait tort de demander comme il avait souvent envie de le faire. « Je suis rentré, alors aimez-moi comme si je n'étais jamais parti. » Il ne pouvait tout simplement pas revenir et espérer reprendre immédiatement la vie telle qu'il l'avait laissée. Il le savait. Il lui fallait seulement être patient. Mais il manquait de patience, comme c'est souvent le cas chez les rois. Il voulait hâter un processus qui ne pouvait pas l'être. Il ne voulait pas accepter son incapacité à rattraper le temps perdu. C'est ainsi qu'Ulysse, roi rusé et audacieux, trouva un plan rusé et audacieux. Il y avait, aux limites de leur galaxie, le confluent légendaire de trois rivières du temps où le passé et le présent se fondaient pour former le futur. En voguant à travers les trous de verre de l'espace, ce n'était un voyage ni dangereux ni trop contraignant à partir d'Ithaque. Le confluent était aussi un lieu de villégiature, un genre de station thermale galactique, où ceux qui en avaient les moyens venaient découvrir la vie qu'ils auraient pu vivre s'ils avaient choisi un autre embranchement. Là, on pouvait faire l'expérience du chemin qui n'avait pas été emprunté et l'intégrer à côté de celui qui l'avait été. C'était le luxe ultime d'une élite hyper riche. Nombreux étaient ceux qui devenaient accros au pèlerinage et qui dépensaient toute leur fortune pour vivre toutes les variantes possibles de leur vie. Certains devenaient fous à cause de la présence de tant de vies parallèles dans leur esprit. D'autres, de retour chez eux, ne parvenaient pas à se débarrasser d'une certaine apathie, d'un penchant chronique à l'inaction qui leur collait à la peau jusqu'à leur mort. Tous les effets secondaires n'étaient pas aussi extrêmes, mais il y avait toujours un prix à payer après le voyage au confluent. Ulysse, cependant, demeurait inébranlable. Par la ruse, il avait vaincu les Troyens, les Cyclopes, les dieux eux-mêmes. Il avait entendu le chant des sirènes et avait survécu pour en parler. Un cas aigu du Brice l'aiguillonnait et l'encourageait à penser qu'il pouvait aussi vaincre le temps, sans payer quelque prix que ce soit. Là où des hommes moins forts avaient échoué, il triompherait. Il emmènerait sa famille au confluent, et là, d'un seul coup, il réécrirait ses années d'absence. Il n'en réécrirait pas seulement sa propre vie, mais aussi celle de sa femme et de son fils, pour faire en sorte que leur longue séparation n'ait jamais eu lieu. Malgré l'appréhension de Pénélope par rapport à ce voyage, malgré les avertissements des oracles de Delphès, malgré les prévisions et des avis de perturbations galactiques sans précédent, Ulysse quitta Ithaque et fit voile vers le continent avec sa femme, son fils et un équipage de 40 hommes. Au début, ils progressèrent régulièrement, les vents solaires étaient favorables, la voile pleine. Même lorsqu'une tempête éclata, elle ne présenta rien de particulièrement alarmant, si ce n'est sa soudaineté. C'était comme si cette tempête venait de nulle part. Puis, tout aussi soudainement et inexplicablement, la tempête cessa. Les vents mollirent, puis moururent complètement. La voile solaire se dégonfla et se mit à pendre du homard comme un voile de mariée. Tout était calme et serein alors qu'ils attendaient que les vents se lèvent à nouveau. Il n'y eut aucun avertissement. À bord, personne n'a rien vu, ni entendu venir. Parce que quand cela éclata avec une vélocité dépassant, à un facteur inimaginable de 18-6, la vitesse de la lumière. Un raz-de-marée temporel déclenché et entraîné par une force incalculable balayait l'univers. Le voilier était en plein sur sa route. Le reste n'aurait été que tours et détours de l'histoire si ce tsunami temporel ne s'était pas déplacé à une vitesse si apocalyptique qu'il dépouilla même l'histoire de sa possibilité de laisser une quelconque trace. Seul Ulysse demeura. Tous les autres, son équipage, sa femme et son fils, tous furent emportés. Le raz-de-marée avançait à une vitesse excédant même la capacité de l'esprit humain à garder un souvenir de l'événement. Seul l'inventaire calamiteux des conséquences était le signe que quelque chose s'était produit. Une nanoseconde avant, Pénélope était là, Télémaque était là, puis il n'était plus. Une nanoseconde avant, Ulysse était un roi, un chef de famille qui allait tout obtenir, puis tout a disparu. Terrassé par le chagrin, il hurle. Ce chagrin devient rage. Il se griffe le visage jusqu'à être couvert de sang et avoir des lambeaux de peau accrochés à ses ongles. Mais il ne peut ressentir tout le chagrin du monde. Il lui manque les ressources nécessaires pour exprimer un chagrin qui soit proportionné à tout ce qu'il a perdu.